Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. On se retrouve pour la troisième interview déjà de cette mini-série d'épisodes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Delphine, à qui j'ai posé mes trois fameuses questions. Si tu n'as pas encore écouté les autres interviews, je t'invite à prendre le temps de le faire, car ces échanges croisés sont bourrés de pépites. Et avant de te laisser avec l'épisode du jour, j'ai le plaisir de t'annoncer officiellement que Delphine sera mentor dans le Winter Club qui arrive tout bientôt. Elle interviendra sur une thématique qui m'est chère, comment créer des photographies sincères et riches de sens. Je t'en dirai plus à la fin de l'épisode, mais tu peux d'ores et déjà aller voir en description pour t'inscrire sur la liste d'attente de l'événement. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mes propres retours d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotion, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formations. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grau Academy, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout te dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour, je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Delphine.
Salut Jérémy.
Franchement, je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Tu participes à la mini-série avec des photographes hyper inspirants. Pour l'instant, j'ai fait quelques enregistrements, c'était vraiment chouette. Ça me tenait à cœur de t'interviewer aussi parce que tu as participé au Winter Club en tant que mentor avec toute ton expérience, tout ton bagage. Tu as un positionnement qui n'est pas commun et que je trouve assez inspirant. En termes de business, tu es aussi, hyper compétente, j'allais dire dans le haut du panier, tu vois, parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut manquer énormément aux photographes. Donc, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Et pour démarrer...
Merci à toi d'avoir pensé à moi sur ce programme. Je suis ravie.
Écoute, avec plaisir, Delphine. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas?
Oui, bien sûr. Donc, je suis Delphine Denant de Deep Photographie. C'est mon nom d'entreprise, Deep Photographie. Je suis photographe auprès des entreprises et des particuliers depuis 15 ans. Et c'est vrai que je gravite entre deux univers très, très différents avec toujours le même but, on va dire, c'est de créer des images qu'on n'oublie pas. Donc, je dis toujours sur Terre, parce que vous verrez après. Sur Terre, je réalise des reportages en entreprise et en événementiel. Et ma force, c'est vraiment de travailler avec mes clients en équipe pour créer des images uniques et qui leur ressemblent. Et sous l'eau, c'est pour ça que je dis le sur terre et le sous l'eau. C'est sous l'eau que j'exerce ma plus grande spécialité, qui est la photographie aquatique. En effet, l'eau et toutes ces nuances de bleu sont devenues vraiment un terrain de création pour moi depuis quelques années. Et du coup, je réalise du portrait aquatique sous la surface de femmes enceintes, de plus en plus de produits et de marques aujourd'hui. Et j'essaie de trouver encore plus le lien entre ce que je peux faire auprès des entreprises et ce que je fais auprès des particuliers sous l'eau. Voilà, donc ça, c'est vraiment mes deux univers le plus important. Après, je suis très, très polyvalente, mais j'ai réduit mes activités pour pouvoir au mieux développer ces deux-là qui, moi, me passionnent et dans lesquels je trouve mon équilibre en tant que photographe.
Ouais, et puis en plus, là, tu vois, les personnes qui nous écoutent ne le verront pas, mais derrière toi, ouais, il y a une photo absolument sublime d'une femme enceinte sous l'eau. Et je trouve que c'est assez ouf, en fait, en termes de rendu, en termes d'expérience, je pense, à vivre. Je ne l'ai pas vécu, alors je ne peux pas dire, mais voilà, donc trop, trop bien.
Non, c'est vrai que c'est un univers très particulier et je crois que ce que j'aime sous l'eau, c'est montrer ce que les autres ne peuvent pas voir parce que peu de gens pratiquent les activités aquatiques et quand on va sous l'eau, si on ne porte pas de masque ou quoi que ce soit, on voit flou. Et je crois que de révéler quelque chose que les gens ne peuvent pas voir comme ça si facilement, ça me passionne et puis ça a tout de suite un côté vraiment incroyable aquatique, c'est beau, tout est magique, le bleu, enfin ceux qui aiment le bleu comme moi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut que adorer quand on aime quelque chose, voilà, un petit peu hors du commun et toutes ces couleurs bleues infinies quoi.
Ouais, j'aurais un million de questions à te poser là-dessus. Je pense qu'il faudra qu'on se fasse un épisode.
Il faut se concentrer. Je crois qu'il y a trois questions, donc il faut se concentrer.
Mais je trouve qu'il y a ce côté ultra pertinent dans l'aquatique et notamment dans la photo là, de la femme enceinte qui est derrière toi, de ce lien au liquide. On est composé quand même d'eau, on est dans l'eau, enfin, on se développe dans l'eau. Et du coup, il y a tellement de choses. Et bon, bref.
On va pas partir
c'est
dans tous
ça.
les sens.
C'est vraiment un des grands sens de l'aquatique chez moi. C'est l'origine de la vie et tout ce travail autour de la maternité où j'aime beaucoup mettre en lien, mais que je mets aussi en lien quand je photographie du portrait individuel de femmes, d'hommes et de familles aussi, parce que l'eau, comme tu l'as dit très bien, on en est composé, un pourcentage qui change tout au long de notre vie, mais c'est des très, très gros pourcentages et l'eau, c'est la vie.
Voilà. On en reparlera dans le Winter Club pour ceux qui seront là. La première question, Delphine, pour toi, c'est de ton point de vue, quelles sont les trois choses qui ont eu le plus d'impact depuis que tu es lancée?
Alors, ça a été une question assez difficile pour moi parce que j'ai envie de pouvoir donner des tonnes de réponses. Donc, j'ai dû faire un choix parce que tu nous en as demandé trois. La première, pour moi, donc, ce qui a eu le plus d'impact, je pense, c'est d'avoir eu un passé en tant que salarié, photographe salarié. Mmh. Et donc, ça m'a permis de pouvoir découvrir le métier de la photographie au sens large, parce qu'on a la chance d'être dans un métier qui est une multitude de métiers. C'est-à-dire qu'un photographe qui est journaliste ne fait pas du tout le même métier qu'une photographe ou un photographe qui photographie la maternité, le bébé, le nouveau-né, etc. Donc, du coup, en tant que salarié, j'ai commencé en faisant de la photo, du filmage dans un parc aquatique. C'est aussi un peu le lien de tout où j'en suis venue aujourd'hui. Et c'est vrai que le filmage, ça m'a apporté le contact humain, où il faut aller vers les gens, jamais leur poser des questions, les photographier, une technique, parce qu'il faut être très bon, très technicien, très rapide, et il faut être aussi un bon vendeur, parce que derrière, on vend les photos, et si elles ne sont pas bonnes à la base, si on n'a pas le bon relationnel, ce mélange-là fait qu'on ne parvient pas à vendre. Donc, c'est vraiment extrêmement polyvalent en termes de compétences humaines et techniques. Après, j'ai fait plein d'expériences. J'ai travaillé dans un studio en Écosse à taille humaine qui faisait de la photographie de famille, d'entreprise, mais il y avait aussi des graphic designers, des web développeurs. Donc, c'était vraiment une petite agence visuelle.
Tu étais salarié?
J'ai travaillé. Comment?
En tant que salarié? Toujours.
En tant que salarié, ouais. Là, c'était stagiaire. Ce studio Clac-Clac, qui s'appelle Clac-Clac à Édimbourg. Après, j'ai travaillé dans une agence de photographes à Paris, où là, j'organisais des shoots en amont. Donc, c'était vraiment intéressant de travailler pour des grosses marques, de répondre à des briefs, réaliser des castings, faire des recherches de sites pour savoir où est-ce qu'on allait photographier, avoir les autorisations, enfin bref. Et du coup, ça m'a aussi appris que ce monde-là ne me plaisait pas du tout. Très, très superficiel. Beaucoup de middlemen qu'on pourrait couper, entre guillemets. Donc, tous ces intermédiaires qui prennent beaucoup d'argent au passage et qui sont pour moi parfois très inutile, mais ça reste un avis extrêmement personnel, mais ça m'a aussi appris vers là où je ne voulais pas aller, donc ça c'est chouette. Après, je suis partie en Australie où j'ai vécu 6 ans, et là aussi, j'ai commencé par être salariée tout en montant ma boîte progressivement. Mais j'ai quand même continué à être salariée, donc j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelait Gusha, qui faisait de la vente de tirages de photographes, mais qui avait aussi un labo photo. Donc, du coup, j'ai découvert tout l'aspect de qui concerne, à l'époque, il y avait la photo sur toile encore, hein, c'était assez tendance, plus la photo sur Dibon, acrylique, etc., et les différents papiers d'art. Donc, j'ai appris un petit peu le métier d'après, le métier de la photographie, qui est complètement différent de la photographie pure et dure, donc super enrichissant. Et ma plus grosse expérience, ça a été dans l'équivalent, c'était un site e-commerce, l'équivalent de vente privée, qui s'appelait Brand Exclusive, dans lequel j'ai été photographe de produits et de mode pendant 5 ans, avec un passage aussi à la retouche, où on avait des rendements de tarés, quoi. On faisait, par exemple, 800 photos retouchées par jour, donc 100 photos par heure. Donc, il fallait avoir des astuces Photoshop, des techniques en termes de retouche. Et pareil pour la prise de vue, où on avait des nombres de produits à photographier par heure, et c'était de face, produit de face, côté 45 degrés, boum, on change. Donc, il fallait être très rapide et technicien en même temps. Donc, c'est des jobs différents qui m'ont permis de me construire en tant que photographe, de savoir ce que j'aimais et ce que j'aimais pas, et d'avoir une multitude de techniques, en fait, et de savoir-faire qu'aujourd'hui, j'entrecroise finalement dans les disciplines que je fais. Quand je fais du reportage, ce que j'ai appris en tant que photographe de filmage me sert, et la photo de produit me sert aussi, etc. Donc, je trouve que c'est extrêmement enrichissant d'avoir des disciplines multiples.
Trop, trop bien. Oh là là.
Voilà. Donc, ça, c'est vraiment
pépites,
le premier
quoi.
Impact.
Ouais.
Ouais, bah écoute, je t'en prie. Donc, premier impact, c'est ça, hein, c'était
ouais, les vraiment les choses qui ont eu. Alors, après, Sarah, dans son interview, tu vois, elle nous disait que c'était pas évident parce qu'il y a plein de petites choses, tu vois.
Et oui.
Mais et oui, et je suis bien d'accord. Mais l'idée, c'est d'essayer de synthétiser pour dire, OK, en fait, quels sont les trois trucs qui ont vraiment eu un impact pour aider les photographes à conscientiser un petit peu ça et se dire, tu vois, en fait, ce qui est hyper marrant dans ce que tu as partagé, c'est que moi, j'ai commencé aussi la photo quand je me suis lancé il y a un peu plus de 10 ans dans un centre aquatique.
Excellent.
Donc, c'est trop
drôle.
Tu vois. J'étais à, donc, moi, j'habitais à Vitrolles et le centre, c'était à Plan de Campagne, du coup, à Aqua City, qui a fermé depuis. Et moi, c'était une extrêmement mauvaise expérience parce que du coup, j'ai tenu 15 jours, un peu moins que ça d'ailleurs. Et je me suis dit,
il faut être une machine un peu.
Je voulais pas du tout ça. Bon, en plus, voilà, il y a plein de trucs derrière qui me correspondaient pas. Mais du coup, c'était malgré tout peu de temps, mais extrêmement formateur parce que justement, tout ce que tu as dit sur la vente, sur l'efficacité, sur
le relationnel,
d'être là avec les touristes, les personnes les familles, qui viennent au parc, les familles et tout ça, bah, du coup, en fait, tu n'as pas le choix. Et du coup, ça m'a vraiment appris dès le début, même si après, j'ai fait des choses qui étaient différentes, à me dire comment on peut directement connecter rapidement, créer un truc sympa, comment on peut arriver à faire des photos qui sont réussies très rapidement et ensuite, comment on arrive à les vendre. Et finalement, c'est une bonne expérience parce que c'est la base un petit peu d'un business pour qu'il fonctionne après, quoi.
C'est ça.
Donc, trop bien.
La deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'était ma participation au Best Job in the World, donc le meilleur job du monde. Ah. C'était une compétition qui avait été lancée par l'Australie dans les années 2000, où on devait postuler pour obtenir le meilleur job du monde. Donc, ça avait fait pas mal de buzz. Beaucoup de Français se rappellent de cette compétition. Et il y a eu une deuxième version 5 ans après, qui était toujours The Best Job in the World, sauf que cette fois-ci, il y avait 5 métiers qui étaient ouverts. Et dans les 5 métiers, il y avait être photo-reporter pour le Time Out Magazine de Melbourne. Donc moi, à l'époque, j'étais en Australie et j'ai postulé pour le job. Il fallait faire une vidéo. Écoutez, elle est sur YouTube. Si vous voulez voir mon compte, vous allez bien rigoler. Du coup, j'ai fait un stop motion parce que je ne voulais pas faire une vidéo en tant que photographe, mais je voulais utiliser la photographie comme support de vidéo. Et du coup, j'ai postulé avec cette vidéo en stop motion et j'ai été sélectionnée. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, ça a été un impact surtout sur le développement personnel, parce qu'en étant qualifiée, j'ai dû pouvoir après gagner. Il y avait, en étant en compétition dans le monde entier avec tous les gens qui voulaient faire le meilleur job du monde dans chacun leur métier. Et donc, pendant tout ce mois-là, on a dû remplir un dossier, faire plein d'actions. Et donc, dans les actions que j'ai fait ma première radio, interview radio, j'ai fait un blog d'interview parce que ça m'en parlait dans le monde entier, donc des interviews françaises, des interviews internationales. J'ai dû monter un dossier, donc aller voir des entrepreneurs, j'étais allée voir l'ambassadeur pour qu'il me soutienne. J'ai dû monter une grosse campagne, en fait. Et ça a été, je me suis rendu compte de tout ce que je pouvais faire quand j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans un laps de temps vraiment très, très court. Et ça a été une expérience qui… Donc, j'ai été jusqu'en demi-finale. Après, je ne suis pas allée plus loin. Mais ça a été waouh, qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 30 jours de campagne. C'était incroyable, quoi.
Ce qui est déjà ouf, la demi-finale, en fait, sur un truc comme ça, quoi.
Ouais, mais c'est clair, parce qu'il y avait des milliers de participants. Ouais. Et en fait, moi, je savais qu'il n'y aurait pas 2 Français dans des jobs différents. Donc, en fait, mon objectif, fallait que je sois aussi meilleure que la française. Et la française, vous pouvez les suivre, ils s'appellent les best jobbers. Donc, c'est des Instagrammeurs aujourd'hui qui sont très, très connus. Et donc, eux, ils avaient… Enfin, elle déchirait tout, la nana. Puis, elle était en France, donc elle pouvait… Moi, j'avais été invitée à l'époque pour être dans le Grand Journal, par exemple, participer à ces interviews sur le meilleur job du monde, alors que j'étais en Australie. Donc, je ne pouvais pas faire toutes les interviews françaises. Donc, ça avait été aussi compliqué d'avoir une campagne avec la France derrière moi, puisque j'étais déjà en Australie. Donc, ce n'était pas simple, mais ça a été, voilà, j'étais allée voir, en fait, je m'étais donné comme challenge d'aller rencontrer tous les gens qui avaient fait la cover du Time Out pour qu'ils me soutiennent. Donc, ça fait partie de mes plans de campagne que j'avais réfléchi, tu vois. Donc, j'étais allée voir des chefs d'entreprise, j'étais allée voir, enfin, tous ceux qui avaient fait la cover pendant quelques temps. J'avais négocié avec Brand Exclusive, donc le vente privé, qu'ils me fassent un bandeau publicitaire sur leur mailing list, et ils l'ont fait. Donc, ça a été beaucoup de négociations. Donc, t'imagines, si vente privée, ils avaient un bandeau en bas qui partait avec leurs milliers d'abonnés, soutenaient Delphine pour le meilleur job du monde. Enfin, j'ai réussi à négocier des trucs de fou comme ça assez rapidement et facilement en une période de temps. Donc, ouais, super bonne expérience de vie, en tout cas, cette compétition du meilleur job du monde de, je ne sais plus quelle année c'était, je crois que c'était
2005,
je dirais 2014.
Ah, 2014, ok.
Je dirais, ouais, parce que je suis rentrée en 2015, donc je dirais 2014.
Okay. C'est assez ouf, je trouve, de partager ça, parce que derrière, ce que j'entends, c'est le côté... quand on se donne les moyens, quand on met de l'énergie, finalement 30 jours c'est relativement court. Ouais. T'as pu déplacer des montagnes, ouais, super conseil. Ouais.
C'est ça. Et puis j'avais fait des événements dans la rue aussi. Donc j'avais monté des studios photo dans la rue pour solliciter le public. Donc j'avais fait beaucoup d'actions. Je dormais très peu. Je dormais trois, quatre heures par nuit parce que je faisais les interviews avec la France. J'ai fini les interviews. J'avais plus de voix. J'étais au bout de ma life. Et à la fin, il fallait rendre un dossier, un PowerPoint qui faisait je sais pas combien de pages où on devait regrouper tout ce qu'on avait mis, parce que eux, c'est pour le Best Job in the World, derrière, c'est Tourisme Australia. Donc, au plus on parle de la compétition, au plus ils brillent dans le monde entier. Et comme il y a les participants sont des Français, des Italiens, des Allemands, des Brésiliens, etc., eux, ils ont un impact d'une com gratuite dans le monde entier. Et c'était ça, on était jugés sur notre force de communication et à la fois sur les actions qu'on menait, qu'il fallait qu'elles aient du sens et qu'elles soient fortes, quoi. Donc, ouais, trop bien. J'aimerais tellement le revivre.
Je mettrai le lien YouTube sous la vidéo. Dans la description de ta vidéo. Ouais.
Avec grand plaisir.
Pour ceux qui veulent aller voir.
Ouais, c'est clair.
Et du coup, est-ce qu'il y a une troisième chose que tu aimerais partager?
Eh ben, moi, le troisième impact, c'est le développement de l'aquatique chez moi, où l'eau a toujours été une vraie passion pour moi. Depuis toute petite, je m'appelle Delphine, donc j'ai un prénom aquatique. Le dauphin a été mon animal et est toujours mon animal préféré et a décoré ma chambre en poster, en housse de couette, en bibelot, en veux-tu, en voilà. Et quand j'étais petite, je voulais être biologiste marine. C'était vraiment l'univers dans lequel j'avais envie d'évoluer. Et finalement, la photographie est venue plus tard. Et à un moment donné, tout a fait sens et j'ai commencé à photographier sous l'eau et ça ne s'est plus jamais arrêté. Donc l'impact dans ma carrière, c'est clairement d'avoir écouté un petit peu, enfin même beaucoup, tout ce qui m'animait pour en faire une spécialité. Et aujourd'hui, quand je reviens en 2009 où j'ai fait mes premières photos aquatiques et vraiment à mon retour d'Australie 2015 où j'ai développé l'activité, c'est incroyable. Enfin, moi, même moi, des fois, j'ai envie de me pincer pour voir si c'est vrai, quoi, parce que j'ai emmené la discipline quelque part, puis je l'ai démocratisé en France, puisqu'aujourd'hui, je suis formatrice, puis il y a beaucoup de photographes qui se lancent comme ça, parce qu'ils découvrent l'univers aquatique et qu'ils trouvent ça beau. Donc, j'ai l'impression d'avoir d'avoir vraiment créé quelque chose, en tout cas, dans cette discipline en France.
Mais écoute, moi, ça fait vraiment des années que je te suis. Et je trouve aussi que tu as amené quelque chose de particulier, parce que c'est rare, je trouve, dans un marché d'avoir quelque chose de nouveau, en fait. Mmh. Et j'ai vraiment cette impression avec toi depuis des années, tu vois, ça fait vraiment longtemps que je t'ai découvert, que tu as amené un nouveau truc dans un marché, tu vois.
Ouais.
Et du coup, c'est pas une petite chose, en fait, je trouve, tu vois.
Merci. En tout cas, je le fais cérébraliser tout ça.
Oui,
je fais une vision un petit peu de l'activité, etc., enfin, moi, je trouve ça incroyable. J'ai une passion que je partage et je la partage aussi bien auprès de mes clients qui viennent me voir pour vivre quelque chose. Et en plus de ça, je la partage auprès des photographes qui, eux, vont faire la même chose auprès de leurs clients. Donc, j'ai l'impression d'avoir un vrai réseau de ma passion. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui... Enfin, j'aime vraiment beaucoup le partage. Et donc, j'ai l'impression de contribuer à ce réseau de partage. Et c'est formidable. Ouais. Quoi.
Je pense que c'est ce qui nous anime aussi dans la partie accompagnement, formation et tout ça. C'est vraiment de pouvoir transmettre ce message, aider des personnes à aller vers quelque chose qui peut les intéresser, enfin tout ça. Bon, on va pas trop digresser.
Ouais.
Trop bien. Merci pour ces partages. Franchement, c'est ouf. Ma seconde question, du coup, elle est: quelle stratégie tu conseillerais à une ou un photographe qui souhaite vraiment développer son activité? Donc, un photographe qui est en lancement, tu vois, qui vient de démarrer, ou un photographe peut-être qui a démarré depuis quelques années, 2-3 ans, mais qui a atteint un petit peu un plafond de verre ou qui stagne, tu vois, qui n'a pas vraiment mis en place ce qu'il fallait. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire?
Je réfléchis parce qu'il y aurait, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je dirais de vraiment ne pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vraiment envie, alors des fois, ce n'est pas évident, je pense à des gens qui sont en reconversion, où il y a derrière, il y a une vraie question financière, etc. Mais l'un n'empêche pas l'autre, parce que je ne parle pas que de la partie financière du travail, mais c'est de ne pas faire les choses à moitié, dans le sens où, à un moment donné, vous voulez être photographe, il va falloir avoir de la visibilité, donc investir dans un bon site internet. Investir sur vous-même en vous libérant du temps, en dormant un petit peu moins, en travaillant vos soirées si vous avez un autre boulot, pour vous développer un site internet. Vous voulez faire tel type d'image, allez, ben sortez-vous, hein, comme on dit, les doigts, hop, et allez faire des shoots de ce type d'image pour les mettre sur votre site, parce que c'est ça que vous voulez vendre. Vous avez envie d'avoir tel appareil photo, ben investissez dans l'appareil photo. Vous avez envie d'apprendre cette lumière-là, allez vous former. En fait, je trouve que les photographes qui souvent stagnent, ou ceux qui mettent énormément de temps à se lancer, c'est parce que du coup, ils y vont à petits pas, et que des fois, ben, du coup, ils perdent énormément de temps. Et quelque chose qu'ils auraient pu développer en un an, ils vont le développer en 5 ans parce qu'ils n'auront pas mis l'énergie suffisante. Donc, ce n'est pas forcément financier, même si forcément, hein, quand on se lance, qu'on sort d'une rupture conventionnelle, qu'on arrive à la fin de son chômage et qu'on veut se lancer photographe, ce n'est pas toujours évident. Et donc là, j'en reviens les 3 choses qui ont eu le plus d'impact. On peut très bien commencer en étant salarié aussi. On a d'autres alternatives. On veut être photographe, on peut très bien commencer en tant que salarié. Je suis sûre qu'il y a plein d'entreprises en France qui embauchent malgré tout. Ce n'est pas le métier où il y a plus de contrats, hein, soyons clairs, mais je suis sûre qu'il y a dans les villes, en tout cas, on peut trouver des jobs de photographe, ou voilà, se dire, peu importe, je vais travailler dans une autre entreprise à mi-temps et je développe l'autre mi-temps à fond, voire un peu plus, parce qu'on peut travailler plus que 40 heures par semaine quand on a des gros projets qui nous animent, quoi. Donc, c'est vraiment de s'investir pour faire quelque chose, parce qu'il y a des photographes qui se lancent, ils n'ont pas de beau logo, ils n'ont pas de beau site, ils travaillent qu'avec une page Facebook. Non, ça ne va pas. Un client, il va vouloir aller regarder. Si vous n'avez pas de site internet, ou un site internet qui est vraiment pas ouf ou pas moderne, le client, il va aller choisir quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, c'est ça, de ne pas faire les choses à moitié dans ce sens-là. Et voilà, je pense que j'ai fait. Et de la formation, c'est pareil. Quand on est très autodidacte, c'est très bien, mais malgré tout, on peut aller voir des tutos. La formation, il y a plein de façons de se former. On peut appartenir à un réseau et aller se faire des cafés, discuter et prendre des uns et des autres. Ou bien aller faire vraiment des formations techniques, des formations business. La formation aujourd'hui, il y en a partout. On peut en avoir, où on va rémunérer les formateurs, mais on arrive aussi à trouver une richesse incroyable sur Internet. Mais je pense que par rapport à ce qu'on a envie de faire, il ne faut pas négliger cette partie-là, pour la même raison de ne pas perdre du temps dans son, dans son évolution, quoi.
Ce que j'entends, c'est super intéressant, c'est finalement, ton message, c'est au bout d'un moment, arrêter aussi de se poser un million de questions. Parce que d'être dans le mental, ben, c'est pas ce qui fait avancer. Et passer à l'action. Dans l'action.
Carrément, pour tout. Donc, pour tout. Moi, on commence tous comme ça. Hein. Moi, j'avais fait mon propre logo au début, mais je m'étais fait un logo. J'ai fait mon propre site au début, mais je m'étais fait un site. Et après, quand on évolue, ben, après, j'ai pris un graphiste qui m'a refait mon logo il y a 2 ou 3 ans. Après, quand je suis revenue en France, j'avais pris une agence qui m'a aidé sur le référencement, parce que j'avais plus d'épaule pour pouvoir investir dans ces choses-là. Mais même au début, après, je suis une perfectionniste, donc c'est vrai que j'aime quand les choses sont bien faites dès la base, mais je pense que ça a été pour moi un facteur de réussite.
Donc, et comment, c'est intéressant, tu vois, Delphine, parce que pour moi, le côté se poser beaucoup de questions, être dans la réflexion, est souvent dû à ce côté recherche de perfection.
Ah bah oui.
Et comment toi, tu as réussi, en étant perfectionniste, à malgré tout te dire, bon, voilà, au bout d'un moment, arrête de réfléchir, teste des trucs, tu vois.
Bah, je me donne énormément d'objectifs. Donc ça, c'est vrai que je suis extrêmement perfectionniste, donc c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut, on peut dire, parce que ça nous freine. Et donc, quand je vois des gens qui, des fois, foncent au culot, je me dis, purée, moi, ça fait 5 ans que je me freine parce que je ne me sens pas assez légitime, je ne me sens pas suffisamment bonne, je ne me sens pas... Des fois, c'est frustrant. Après, honnêtement, je préfère être aussi comme ça, parce que des fois, quand on va trop vite et qu'on n'est pas à sa place, c'est pas forcément bon non plus. Donc, ce côté-là, moi, j'en ai fait une force dans les deux cas, puisque c'est ce qui me permet de donner du sens aussi à ce que je fais, de m'être posée, d'avoir attendu le bon moment. Mais je me donne quand même beaucoup d'objectifs par an, donc que je répartis. Alors après, je ne vais pas dire chaque mois, je vais me faire ça, mais tu vois, je travaille avec j'ai des weekly planners, toute la semaine, je raye tout ce que je dois faire et j'ai mes tâches. Et chaque année, ça, c'est la plus grande de mes missions, je fais un email, je fais une newsletter par an où je fais une rétrospection de l'année et j'annonce mes projets à venir. Et du coup, quand j'annonce que je vais refaire ma charte graphique et que mon site internet va évoluer, je ne peux plus ne pas le faire parce que je l'ai dit, quoi. Donc, je m'engage. Et une fois que c'est écrit noir sur blanc et qu'en plus de ça, tu as communiqué dessus, bah, tu as un engagement qui est plus fort. C'est comme tu te dis, bon, je vais arrêter de fumer. Tu ne le fais pas forcément. Par contre, tu dis à tout le monde, bon, les gars, là, je vous avoue, là, dans 2 mois, j'arrête de fumer, j'ai 2 mois pour m'y mettre. Une fois que tu t'es engagé avec d'autres, bah, c'est plus facile d'obtenir.
Ah oui, tu n'as pas envie de passer pour un loser. Et...
Voilà, bah, ça, surtout quand tu es quelqu'un de perfectionniste, c'est que forcément aussi, il y a un regard de l'autre vers toi qui doit être aussi important. Donc voilà, j'annonce mes projets et je me donne des projets très régulièrement. Et c'est vrai que je monte mes échelles petit à petit. Donc, j'ai des projets d'exposition, des projets de projets perso, des projets business, du nombre de clients à développer, de changement de collection. Enfin, voilà, chaque année, j'essaie d'avoir des choses à réaliser.
Hyper intéressant. Et du coup, tu as parlé de l'aspect de se former. Franchement, je pense que c'est indispensable. Moi, j'étais un peu en mode, tu vois, je suis autodidacte, un peu mon ego au début, tu vois.
Ouais.
Pendant 3 ans, j'ai voulu tout faire dans mon coin et je me suis rendu compte que c'était une très mauvaise idée. Et quand j'ai commencé justement à me former, à progresser, à partager, c'est là où ça a explosé, quoi.
C'est clair.
Et du coup, petite auto-promo pour les photographes qui ont vraiment envie d'être accompagnés, le Winter Club est vraiment là pour ça.
Ben c'est clair, le programme que tu as, c'est vraiment très, très riche. Et je pense que, en fait, des fois, on ne veut pas investir parce qu'on se dit, ouais, c'est beaucoup d'argent. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on voit le retour sur investissement qu'on a à pouvoir décrocher ses premiers clients beaucoup plus rapidement, à pouvoir se vendre au juste prix qu'on n'aurait jamais peut-être osé mettre sans faire de formation, ben le retour sur investissement, il est extrêmement rapide.
Ah ouais, il est énorme, rapide. Et ouais.
Il faut avoir cette conscience quand on est entrepreneur, il faut aussi savoir investir sur soi-même et la formation, ça passe par là. Donc, moi, j'ai eu la chance, parce que j'étais salarié, d'avoir eu des formations à travers mes patrons qui me donnaient des missions. Et puis, malgré tout, en étant autodidacte, je faisais beaucoup de retouches moi-même le soir parce que j'adorais ça, je faisais des photos toute seule, etc. Et puis après, petit à petit, je me suis mis dans des groupements de photographes, je partage énormément. Enfin, la formation, c'est ça, elle est humaine et elle est partout, quoi.
Ouais, trop bien. Ma dernière question pour toi est la suivante. Comment vois-tu l'évolution du marché de la photographie dans les prochaines années ? T'es je ne sais pas si on pourrait appeler ça un dinosaure de la photographie. Ça fait 15 ans, donc t'as
vu... Oui, on peut dire ça.
On peut dire, c'est de manière... C'est pas.
Alors, je dis ça, j'ai des copains, ils ont 65 ans, ils arrivent à la retraite. Donc,
voilà. Bon.
Pas tout à fait, mais c'est vrai que oui, par rapport à des jeunes qui se lancent maintenant...
Mais du coup, par rapport à ce parcours, sûrement à la découverte du numérique, à l'évolution qui a été énorme déjà ces 15 dernières années, je trouve. Pour toi, c'est quoi la perspective ? Un photographe, comment il va faire pour réussir dans les prochaines années ?
Alors déjà, je pense qu'on peut avoir une vision plutôt optimiste ou une vision plutôt pessimiste, suivant comment on se positionne. Déjà, je voulais savoir, est-ce que tu sais que chaque seconde dans le monde, c'est 54 400 photos qui sont capturées, chaque seconde, appareils photo et smartphone confondus. Donc ça, c'est un chiffre qui est incroyable, ça veut dire 4,5 milliards par jour.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en gros, on est noyé d'images partout. Donc ça, c'est à la fois positif, ça veut dire qu'on consomme de la photographie et on est vraiment autour de la photographie. Donc, si je reprends ces stats-là, on va dire qu'une chaque personne dans le monde fait en moyenne 5 photos par jour, principalement avec les smartphones, qui sont devenus l'outil photographique le plus utilisé aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on est noyé d'images et c'est à la fois positif, si je dis qu'on est des gros consommateurs et utilisateurs de photos, mais en même temps, c'est hyper négatif parce qu'en fait, ça veut dire qu'une image, elle est la plupart du temps même pas vue, puisqu'elles restent dans les disques durs ou dans les téléphones, et quand elles sont publiées ou montrées, elles sont là que quelques secondes. Donc ça, c'est vraiment, en fait, pour moi, la partie à la fois positive, puisqu'on est dans l'image, et l'image est très importante dans notre société, et la partie négative, c'est qu'en fait, elle est spontanée, et comment je peux dire, elle ne reste pas dans le temps. Et ça, c'est très dommage, parce que du coup, on en vient à faire de la masse. Et du coup, voilà, il y a énormément de photographes pros amateurs, etc. Mais il y a peu de gens qui sont experts dans cette profession-là. Et donc, je pense que ça, cette évolution-là, et encore, je ne me considère pas comme les dinosaures photographes, qui, comme je te disais tout à l'heure, qui sont proches de la retraite, qui ont déjà vu ce phénomène passer à partir du moment où on est passé de la pellicule au film au digital. Et là, avec l'apparition des smartphones utilisables de tous, avec des capteurs de plus en plus puissants, et la vidéo qui arrive en plus, qui a aussi un autre impact sur la photo d'après moi, c'est démultiplié. Donc, en fait, ça veut dire que je pense qu'il y aura encore et encore de plus en plus de photographes, mais malheureusement, d'après moi, de moins en moins de photographes qui arriveront à en vivre. Mmh. Et constat, et je pense que ça va aller dans ce sens-là. Après, est-ce que c'est bon ou pas ? Moi, je ne vois pas forcément ça. C'est pour ça le côté optimiste, c'est toujours de me dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça ? Devenir expert. Et c'est ce que je pense que j'ai pu réussir à faire en me travaillant dans un marché qui est techniquement très complexe, peu connu, et me développer dans l'aquatique. Est-ce que dans 10 ans, la photographie aquatique sera aussi tendance et j'aurai encore des demandes ? J'en sais rien.
Mais je pense que notre...
quand tu auras plus d'eau sur la planète, on n'en parle pas parce que c'est un sujet qui me touche énormément, mais c'est vrai que voilà, qu'est-ce qu'il faudra faire, je pense, c'est la capacité à s'adapter au fur et à mesure de ce qui se passe. Moi, je dis souvent, si dans 10 ans, je ne suis plus photographe, j'essaierai, ce n'est pas grave, j'essaierai de trouver du sens dans le nouveau métier que je ferai dans 10 ans, et c'est comme ça.
J'ai enregistré un épisode... Pardon, excuse-moi. Mm-hmm.
Non, c'est bon.
J'ai enregistré un épisode avec Solveig et ce qu'on disait, ce qu'elle partageait, qui était hyper intéressant, ce qu'on partageait tous les deux, en fait, dans la discussion, dans l'échange, c'est que mon impression, c'est que le marché de la photographie s'est professionnalisé ces dernières années. C'est-à-dire que tu vois, Solveig, elle s'est lancée il y a une dizaine d'années, comme moi. Et en fait, à l'époque, tu te lançais, tu montrais 3 photos moyennes. T'allais voir des gens, ils voyaient que c'était un peu mieux que ce qu'ils faisaient eux parce qu'il n'y avait pas les smartphones qui existaient aujourd'hui et tout ça. Et en fait, ça marchait, tu vois. Et aujourd'hui, ce que tu dis un petit peu, l'impression de ce que j'entends aussi, c'est que dans le côté être spécialiste et du coup avoir un impact plus précis sur un domaine, c'est aussi derrière, je pense, se professionnaliser avec des connaissances marketing, des connaissances business qui sont établies, d'être hyper au clair sur quelle est sa cible. Parce que je pense que le côté de « bon, on fait des photos et puis n'importe qui vient », ça marchera de moins en moins. Et justement, comme tu dis, il faudra avoir un client idéal beaucoup plus précis, une offre qui répond aussi à des besoins beaucoup plus précis, beaucoup plus poussés. Et en mettant l'accent, je pense, ça c'est mon point de vue, sur tout ça. Donc vraiment le côté professionnaliser la profession en tant que photographe et l'expérience qu'on fait vivre aussi.
Tout à fait d'accord. Ouais. C'est ce qui fera, je pense, la différence parce que comme on est de plus en plus nombreux et comme tu l'as très bien dit, on a l'accès à la formation, on est nombreux à être bons.
Et c'est ça.
C'est clair. Ouais. On est nombreux à être bons. Et on voit que les amateurs qui utilisent que leur téléphone sont extrêmement bons parce qu'en plus de ça, ils arrivent avec la puissance des logiciels qu'on n'avait pas, nous, à notre époque, où il fallait qu'on soit bon à la prise de vue et bon à la retouche. Aujourd'hui, on a les hybrides qui nous permettent d'être bons à la prise de vue sans y connaître rien en technique et les nouveaux Lightroom et Photoshop qui nous permettent d'être extrêmement bons en retouche sans y comprendre rien à la retouche. Et en gros, c'est ce que je dis quand je suis en formation, ce n'est pas un problème. Tant mieux, utilisons ces outils-là pour nous-mêmes encore gagner du temps. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se laisser dépasser. Même les dinosaures que nous sommes, il faut continuer à se former parce que sinon, on se fait dépasser par la jeunesse qui arrive et qui exploite ces logiciels parce qu'ils les mettent en place le jour où les nouvelles versions ont été mises à jour. Alors que nous, si on ne fait pas nos mises à jour, on se fait un peu perdre par le temps pendant des années où on aurait pu utiliser les nouvelles fonctionnalités, quoi. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le marché de la photographie, on n'a plus besoin d'être technicien. On a juste besoin d'avoir un œil. Et c'est ce qui fait tout hein. En photographie. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. La technique, ça s'apprend. C'est du temps, mais ça s'apprend. Ce qui n'est pas remplaçable, c'est notre vision du monde, la façon dont on va cadrer, la façon dont on va capturer les émotions, la lumière, etc. Et ça, il y a quand même aujourd'hui le fait que les jeunes soient bercés très tôt dans l'image, ils ont quand même une sensibilité visuelle qui est bien plus développée, d'après moi, qu'il y a 20 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de potentiels photographes ou vidéastes sur le marché. Et donc, en fait, ce n'est pas forcément des professionnels, mais une femme enceinte qui a baigné, qui a été influenceuse, qui a toujours fait des images depuis qu'elle est jeune, quand elle voyageait, etc., elle va sans doute ou peut-être se passer de son photographe pour capturer sa propre grossesse, parce qu'elle va mettre son smartphone, elle a les filtres Instagram qui vont lui permettre de faire une photo, qui en plus ça sera canon en post-prod, elle va le poser, elle va se faire sa photo avec son chéri, parce qu'elle aura observé des comptes de photographes, et donc elle va pouvoir se passer de nous. Et c'est ça. Et moi, je veux faire en sorte que les gens ne puissent pas se passer de moi. Et ça, comment on peut le faire? En proposant des, comme tu disais, d'être multitâche en tant que photographe, d'être bon photographe, mais aussi à vous faire vivre une bonne expérience, avoir des collections qui peut-être la cliente, photographe amatrice, ne pourra pas obtenir elle-même. C'est avoir vraiment quelque chose d'unique, du premier contact jusqu'à la livraison, pour que les personnes, en tout cas, elles aient envie de venir chez nous. Et ça, je pense que ça va être vraiment, et on le voit, avant, dans après-guerre, il y avait plus de photographes. C'est ça qui est fou quand on parle de studio et tout. Les gens se faisaient plus tirer le portrait qu'aujourd'hui. Ouais. La seule chose aujourd'hui où on va vraiment plus chez le photographe, c'est la grossesse, le mariage aussi, mais les photographes de mariage ont toujours existé. C'était une autre offre. Mais je pense que vraiment, après-guerre, les gens allaient plus se faire tirer le portrait qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le fait qu'on ait les smartphones, moi, j'ai plein de copains autour de moi, parce que ce n'est pas ma cible, qui vont me dire, mais jamais je dépenserai autant pour avoir des photos, parce que regarde, moi, je me suis fait mes photos moi-même. Ouais. Et ça, je pense qu'il y en aura de plus.
Mais je pense que c'est intéressant, parce que tous les deux, on est un peu des exemples de cet avenir, je crois. Toi, avec une discipline où c'est pas accessible à tout le monde, finalement, de faire ce que tu fais, avec une vraie expertise, une compétence, une connaissance. Et moi, aujourd'hui, tu vois, ma force, elle est pas tant dans la prise de vue, parce que je pense qu'aujourd'hui, comme tu disais, c'est la base, en fait, d'être bon en photographie, et on peut se former facilement pour ça. Elle est dans, je sais plus quel terme t'as employé, mais dans le regard, dans l'expérience, et avec mes séances reconnexion, j'aide les personnes à se reconnecter à eux, tu vois. Et en fait, ce truc-là, tu peux pas le faire tout seul avec ton téléphone, en fait.
Exactement.
Et
me fait rire. Tu sais que j'ai lancé mes séances connexion.
Ah, énorme.
Donc, je suis tout à fait avec ça, d'accord avec ce point aussi. En fait, dans mes séances aquatiques, je propose une vraie séance où on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus proche du bien-être. Ouais. Je ne me considère pas comme une thérapeute, mais presque, parce qu'on vient en début de séance poser une intention et faire un vrai travail sur des intentions, qui peuvent être des intentions positives ou des intentions d'évolution ou travailler sur quelque chose qui nous fait un peu du mal depuis quelques temps, etc. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. On a besoin d'avoir un accompagnant.
J'ai l'impression que de plus en plus, moi, dans cette évolution, en fait, la photo sera qu'un outil. Tu vois, je pense que le photographe de demain, il devrait être bon sur le business, comme on a dit. Il choisira l'outil qu'il utilise. Ça peut être la photo, la vidéo, ça peut être la peinture, pourquoi pas. Et finalement, ce côté intention, je pense que c'est pertinent, parce que je pense que on ne peut pas nier que la photographie, ça a cette chose-là de prendre un instant T qui est très figé, un millième de seconde, un 500ème de seconde, en tout cas un instant qui est très, très court, et qui permet à un instant de se poser pour faire éventuellement un travail là-dessus, tu vois. Et moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'on pourra choisir d'avoir l'outil photo, peut-être l'outil vidéo, peut-être un autre, pour accompagner des personnes dans un chemin particulier, quoi. Alors, un accompagnement qui va être plus ou moins poussé en fonction de ce qu'on a envie de faire ou pas. Mais en tout cas, ce que tu disais sur poser une intention, ça revient à l'idée de faire vivre une expérience. Je pense que c'est un des points clés de l'avenir de la photographie.
Je suis d'accord. Et c'est vrai que quand je me présentais, je disais que je travaillais aussi auprès des entreprises. Et c'est la même chose que je leur fais. C'est-à-dire qu'en fait, avant de faire un reportage, je vais me poser avec mon client, je vais lui poser des questions sur ses valeurs, ses intentions sur l'avenir, comment il voit la perspective de son entreprise, quelles sont les valeurs humaines au sein de son entreprise, etc., etc., pour pouvoir, comme je disais tout à l'heure, créer des images uniques. Et si on ne s'intéresse pas à faire vivre cette expérience-là et s'intéresser aux gens globalement, du coup, un photographe classique qui fait du reportage sans s'intéresser à ça, il va faire des photos qui seront peut-être très belles. Il va peut-être passer à côté de la valeur du client. Si, quand je photographie un dentiste, il me dit mes valeurs principales, c'est l'hygiène, ça va se sentir dans mes images. Enfin, c'est un exemple comme ça.
Mais c'est hyper intéressant.
Voilà.
Vas-y.
Et voilà. Et donc, en gros, c'est pour moi l'expérience, elle peut, comme tu dis, l'outil, c'était très bien la photographie, pour moi, c'est un outil, mais ça pourrait être tout à fait autre chose que je ferais vivre la même expérience à mon client, c'est-à-dire lui créer des choses sur mesure. Et au plus on arrive à faire des choses sur mesure qu'ils ne sont pas capables de faire eux, ou peut-être pas avec certains autres professionnels, plus on a de chances d'être validé par le client, en tout cas de signer un contrat et de trouver des clients qui vont nous ressembler parce qu'ils vont se reconnaître dans ce qu'on leur propose, etc.
Ouais.
Et c'est ce qui fera, je pense, la différence.
Et c'est très marquant, tu vois. C'est marrant parce qu'on a d'énormes similitudes. Moi, je fais beaucoup de corpo encore aujourd'hui, tu vois. J'ai gardé le portrait et le corpo. Et en fait, dans les entreprises, j'ai des entreprises qui viennent en me disant, sur le chiffre que tu disais, plus de 4 milliards de photos qui sont créées chaque jour, tu vois. Mm-hmm. J'ai des entreprises qui viennent en me disant, oh là là, ben, en fait, piocher dans des banques d'images, c'est impersonnel, on ne s'est jamais trouvé. Comment faire et tout ça. Ce qu'on a envie, c'est un vrai regard, c'est un besoin précis et moi, ma capacité, c'est à créer du lien entre les personnes et à les révéler en photographie. En fait, ça marche partout. Mmh. Ça marche pour les entreprises, pour les particuliers et je pense que c'est sur ces choses-là, tu parlais de valeur, des choses qui nous correspondent où on va avoir un énorme levier de différenciation et susciter un énorme besoin aussi pour les entreprises, les particuliers et tout ça, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on a un potentiel qui est immense en tant que photographe. Et je pense qu'être uniquement photographe dans le sens prise de vue, c'est pas suffisant. Il faut vraiment savoir évoluer, s'adapter, parce que notre métier, on l'a vu, moi, en 15 ans, l'évolution, je ne parle même pas de ceux qui ont 40 ans de métier, les 10 prochaines années vont encore évoluer, etc. Après, pour peut-être redire quelque chose, quand on voit le monde, comment tout ça se dirige, je fais quand même partie de ceux qui prennent conscience que tout ce qui a trait au service est malheureusement pour moi quand même beaucoup inutile. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait revenir à l'essentiel, c'est-à-dire avoir plus de gens qui travaillent la terre et grâce à qui on peut se nourrir, moins consommer des choses qui ne sont pas utiles. Et c'est pour ça que je me dis, il faut vraiment mettre la force sur quelque chose qui est utile. Et être photographe lambda, qui fait un peu de tout et qui n'a pas de sa spécialité, mais il devient presque inutile comme quelqu'un qui vient poser des ongles. Je suis désolée, hein, j'essaie d'être assez dure, mais je me dis finalement, les ongles, est-ce que c'est vraiment nécessaire de se poser des ongles? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un portrait de soi à tout moment? Non. Par contre, si c'est un portrait qui vient nous révéler parce qu'on a un besoin à un moment T, etc., là, ça a du sens. Et en fait, je pense que tous ceux qui travaillent dans le service, ça va diminuer. C'est pas possible parce que le monde, comme il est en train d'évoluer, si on veut se reconcentrer sur l'essentiel, il va y avoir beaucoup de sociétés de services qui vont être à la baisse dans les prochaines années.
Est-ce que tu n'as pas le sentiment, moi j'ai deux sentiments, à la fois que tout est cyclique, et en fait quand tu regardes, il y a des choses qui reviennent de manière cyclique depuis tout le temps en fait, et la deuxième chose qui est sur l'aspect, comment dire ça, je pense que ça pourra prendre du temps. Mais dans cette notion aussi de cyclique, les deux sont liés. Le fait de se dire, tu vois, tu parlais du fait des smartphones qui ont une qualité super importante. Tu vois, hier, là, c'est la fête foraine dans le village où j'habite. Hier, on était dans un manège. On a fait une photo. J'ai un iPhone avec Raphaël et Charline, tu vois, avec mes enfants. La photo, elle est ouf. Je l'ai prise, c'est spontané. J'aurais pas pu avoir ça par un photographe. Ou alors, il aurait fallu que j'anticipe le moment. Et mon besoin, c'est pas forcément d'avoir une séance complète à la fête foraine, tu vois, parce que, en fait, j'ai accès à ça. Et par contre, chaque année, on se prend une séance famille pour justement marquer le coup, voir chacun qui grandit, des choses comme ça, tu vois. Et ce que tu dis, je trouve que c'est très juste parce que je pense que de plus en plus, il y aura peut-être moins de besoins superflus parce qu'on se rend compte, est-ce que ça vaut le coup d'avoir des milliers de photos sur son téléphone? Est-ce que ça vaut le coup de faire des séances à tout va? On parlait de parc aquatique, de faire des photos comme ça tout le temps. Encore que bon, ça, je pense que ça pourra perdurer. Et on reviendra à quelque chose de plus du choix en conscience de se dire, OK, en fait,
qu'est-ce qui est essentiel?
Qu'est-ce qui est essentiel à cet instant T? Comme moi, j'ai retrouvé, en fait, ce qui a marqué mon évolution dans la photographie, c'est que j'ai découvert, quand mon grand-père est décédé, des boîtes entières de chaussures avec des photos de lui à la guerre, de mon père à sa communion, des trucs comme ça. Il n'y avait pas des milliers de photos. Par contre, il y avait des photos de moments marquants dans l'histoire, en fait. Ouais. Et je pense qu'en fait, on va revenir à quelque chose comme ça de est-ce que c'est vraiment essentiel ou pas? Et quand ce sera essentiel, on voudra que ce soit bien fait, on voudra qu'il y ait un professionnel qui ait une belle expérience, qui ait un savoir-faire, qui ait tout ce qu'on a dit, qui vienne capturer ce moment-là pour vraiment le garder et que ce ne soit pas le côté un peu boulimie de « oui, on a 5000 photos sur son téléphone, mais finalement, on n'en fait rien, quoi. »
Je suis entièrement d'accord. Et c'est pour ça que je pense que, comme tu l'as très bien dit, quand tu es au manège, je fais la même chose. Je fais photographier, documenter ma vie quotidienne plus facilement grâce aux outils qu'on nous offre aujourd'hui. Et en même temps, je vais chez un photographe tous les 1 ou 2 ans pour capturer des choses où moi, je ne suis pas sur les photos la plupart du temps. Donc, ça me permet d'être dans ma famille et des moments plus marquants, les 1 an de ma petite, ou là, ça va être une séance fratrie que je vais faire avec mes deux filles dont peu de temps, etc. Et effectivement, moi, je ne suis pas une grande consommatrice. Donc, quand je vais chez un photographe, je lui demande 10 photos, ça me suffit très bien. Je demande peu de photos, mais de la qualité. Et la plupart du temps, j'en ai qu'une que je sors en tableau. Et c'est celle-là que je vais regarder tout le temps. Donc, finalement, je suis entièrement d'accord. Puisque surtout, que comme je te disais, je pense que les particuliers vont être beaucoup plus habitués à faire de la photo, qu'ils arriveront à se photographier eux-mêmes quand les femmes seront enceintes, etc., avec des astuces. On l'a vu pendant les confinements, on peut se photographier avec des ordinateurs, on arrive à se faire des choses incroyables. Donc, voilà. Et effectivement, pour déclencher le besoin aux particuliers ou aux entreprises d'être indispensable, il faut trouver vraiment la clé. Donc, ce n'est pas un mal, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire que je pense qu'on est très nombreux sur le marché de la photographie. Je pense que de plus en plus de photographes vont moins gagner leur vie, ouais, et peut-être libéreront le marché, et que seulement ceux qui seront de plus en plus spécialistes ou qui ont vraiment quelque chose de très particulier à offrir resteront. Et voilà comment je vois le monde. Peut-être ça sera autrement, mais je pense que je l'imagine comme ça, l'avenir de la photographie.
Je suis très optimiste, et par contre, je pense qu'il y aura une forme de sélection naturelle qui se fera, quoi.
C'est ça. On peut parler.
Mais c'est un peu ça, en fait. Hein.
C'est un peu ça, c'est vrai.
C'est ouf, franchement. Bon, cet épisode va être long, mais tellement de valeur, quoi. Ah, mais c'est trop intéressant. Delphine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter pour conclure, que tu aimerais partager? Tu vois, que tu t'es dit, on a dit beaucoup de choses, mais s'il y a un truc
qui on a dit beaucoup de choses.
On l'a pas non, dit, vraiment, ce serait intéressant, tu vois.
On fait vraiment un métier formidable, et je pense qu'il faut vraiment aller chercher pourquoi on fait les choses et comment on peut les emmener plus loin. Voilà, ouais. Pour se différencier, ça n'a pas de sens, mais se différencier parce qu'on est allé chercher vraiment qui on est pour arriver à transmettre des vraies valeurs et trouver des gens qui nous ressemblent, qui se reconnaissent dans ce qu'on va, on va pouvoir leur offrir.
Oh, trop bien. Ce que je dis. Si on veut te retrouver, on va où
pour discuter? Alors, pour me retrouver, on va où? Déjà, j'ai un site internet qui est www.diphotographie.com. Alors, photographie avec un Y, puisque j'ai créé mon entreprise en Australie et j'ai gardé mon Y à photographie. Après, j'ai deux comptes Instagram, un dédié au corpo qui est Diphotographie Corporate et un autre qui est Underwater Diphotographie pour l'aquatique. Et puis sinon, je suis située à La Ciotat, je ne l'ai même pas dit, je suis dans le sud de la France.
Le sud en force.
Ouais, c'est clair, on est à côté, c'est trop marrant. Et puis sinon, sur les réseaux sociaux, Delphine Denant sur Facebook, c'est mon compte perso pro, parce que je n'ai plus de Facebook sinon. Et voilà. Puis surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, MP, si un jour vous... Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. J'adore partager. Je fais pas mal de choses pour le métier de la photographie parce que j'adore ça. Et je pense qu'ensemble, on est vraiment plus fort. Donc, il ne faut, pas rester dans son coin. Et il ne faut pas penser que les photographes sont tous des personnes très individualistes. Il y en a, mais c'est de moins en moins comme ça, et tant mieux, quoi.
Ouais. Voilà. Franchement, merci. Moi, j'ai hâte de te retrouver dans le Winter Club pour ton mentor show.
Moi aussi, parce que
je pense que ça va être... Il faut prévoir 4 heures, je pense, parce que t'as tellement de choses à partager.
Je parle énormément et je suis très passionnée. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup donner, parler, etc. Et en plus, le sujet du Winter Club, c'est quelque chose qui m'anime, donc j'ai de quoi dire.
Non, mais franchement... Et puis, ça se sent, donc c'est ouf. Et je pense qu'on est pareil. On ne peut pas faire ça si on n'aime pas partager.
Non, c'est clair.
Merci du fond du cœur. Je te souhaite une merveilleuse journée.
Merci à tous pour l'écoute. Et puis à très, très bientôt. Très vite.
À très vite. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Et merci du fond du cœur à toi, Delphine, pour tous les bons conseils qu'il nous a partagés. Je ne sais pas toi, mais personnellement, j'adore rentrer dans la tête d'autres photographes pour comprendre leur état d'esprit et mettre en lumière les stratégies qui fonctionnent le mieux pour eux. Et en parlant de stratégie et d'état d'esprit, j'ai le plaisir de t'annoncer que Delphine fera partie des 8 mentors de mon prochain programme d'accompagnement. Alors, si tu vas avoir la chance d'échanger pendant de longues heures, comme tu l'as vu dans l'interview avec elle, tu peux dès aujourd'hui rejoindre la liste d'attente du Winter Club pour recevoir le programme complet en avant-première à partir du 21 octobre 2022. De mon côté, je te dis à demain pour la 4e interview de cette série d'épisodes de podcast.
Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce dernier t'a plu, je serais très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur Instagram à @jeremyguillaumephoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde. Je donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais. Je t'embrasse.